une mortalité de l'âme. Ces problèmes se tiennent. On pourrait d'une certaine manière parler d'abord de la mort biologique, puis de l'origine et de l'immortalité de l'âme ensuite. Ça peut... C'est comme toujours quand on donne des titres. Des titres, c'est toujours un peu factice. Parce que de fait, pour bien comprendre philosophiquement parlant l'origine de l'âme, je crois qu'il faut regarder l'immortalité. Il y a quand même deux problèmes différents. C'est moi qui ai donné les titres, donc j'ai fait une rétractation. Mais nous allons quand même regarder ce soir l'origine de l'âme humaine. C'est un problème extrêmement difficile. Ça vous décevra peut-être énormément. Ce que le philosophe peut dire dans un tel là. Nous savons si nous sommes croyants. J'allais dire, dans presque toutes les traditions religieuses, le problème de l'immortalité de l'âme est affirmé. Puisque s'il n'y avait pas l'immortalité de l'âme, il n'y aurait pas de problème religieux. De sorte que c'est contemporain, presque, et nous y reviendrons la fois prochaine, au problème de l'immortalité de l'âme. Dans la foi chrétienne, et donc dans la tradition religieuse chrétienne, je fais la distinction entre les deux, vous voyez bien. La foi personnelle, les traditions, sont un bien commun, un patrimoine, qui implique toujours la coopération de l'homme. C'est pour ça qu'il peut y avoir des traditions religieuses, chrétiennes, qui quelquefois sont assez lourdes à porter. Des traditions de dévotion. Vous voyez, la procession, des processions comme à Séville, sur la Vierge Marie. Vous avez bien des petits détails extraordinaires. Je n'ai pas assisté, mais j'ai entendu une personne qui me le disait. Chaque paroisse sort sa statue de la Vierge Marie. C'est bien porté. Mais alors quand on arrive à certains tournants et que d'autres passent avant, paraît-il que les porteurs sortent de l'endroit qui porte et puis s'adressent à Marie et disent « On te vengera, tu sais, on te vengera, il est passé devant nous, mais nous le rattrapons. » Passons devant lui après. Tradition religieuse chrétienne par rapport au mystère de Marie qui fait de temps en temps ça charrie des tas de choses qui ne sont pas très chrétiennes mais qui sont très humaines. Surtout quand il s'agit du mystère de Marie, c'est très curieux. Des processions, des origines de culte. Il faut bien distinguer la foi chrétienne qui est personnelle et les traditions religieuses chrétiennes qui ont une origine de la foi et qui impliquent des réponses des hommes et qui sont gardées à travers une communauté. Pour ça, les traditions chrétiennes religieuses ne sont pas les mêmes en Amérique du Sud qu'en France. Ne sont pas les mêmes certains coins de l'Europe, l'Espagne et la France, l'Italie, du Sud, je dis bien du Sud, la Sicile, et puis le nord de la France, et ainsi de suite. Si tu restes très bien, je me souviens, c'était le jour de la fête Dieu, en Suisse, dans un petit village du Valais, à Savièse, on m'avait dit essayez d'assister une fois à une de ces processions. Ça vaut le coup, parce que tout un folklore extraordinaire de la vie glorifie le Seigneur, parce que là aussi les processions du Saint-Sacrement de la fête Dieu. Alors le curé m'avait dit, mon père, je m'excuse, mais Aujourd'hui, bien que vous soyez là, je prêcherai. Parce que vous comprenez, c'est le seul jour de l'année où toute la population est là. Ça, tout le monde est là. Et ils sont tous en grand costume. Et c'est vrai. Et donc, le curé doit pouvoir leur dire un mot. J'ai dit tout à fait, monsieur le curé. Et puis, ça m'intéressera beaucoup de voir comment vous leur parlez ce jour-là. Parce que vous devez leur parler de façon assez particulière. Et vous verrez. Vous verrez comment je leur parlerai. Je les connais. Alors, il a commencé. Je n'ai pas trop retenu. Mais le commencement, j'ai retenu. Parce que c'est sur le commencement qu'on sait mieux. Il a commencé par leur dire, dit, que c'est du folklore, ce que nous faisons pour ces processions. Laissons-les dire, parce que Dieu, après tout, aime peut-être le folklore, parce qu'il est intelligent. Et puis il a continué. Et c'est vrai, il y avait un folklore extraordinaire, merveilleux. Tradition religieuse chrétienne. Quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur. Vous voyez, quelqu'un qui vraiment bouffe un peu du curé, de tradition en tradition. Quelqu'un qui est dans une mentalité très positiviste, juge l'église chrétienne par ce folklore. C'est vrai, de l'extérieur. Si c'est ça la foi, qu'est-ce que c'est que cette espèce de mélange de tout? C'est vrai que les traditions impliquent toujours la réponse de l'homme à quelque chose qui peut venir directement de Dieu. Et donc il y a une espèce de coopération entre Dieu et l'homme. Je crois que c'est très important ça. De bien distinguer les traditions religieuses et parmi les traditions religieuses chrétiennes. Et puis la foi c'est la parole de Dieu, ce sont les dogmes, c'est l'enseignement rituel de l'Église, ça c'est la foi. Et la foi est personnelle. Je ne crois pas parce que mes parents étaient chrétiens, je crois parce que j'ai choisi le Christ. Tandis que les traditions religieuses chrétiennes, on les a vécues dans sa jeunesse, dans un petit village, parce que c'est dans les petits villages que ça se garde le mieux. Dans les grandes villes, on nettoie trop pour que ça garde. Tandis que dans les petits villages, ça se garde. Alors on a vu ça dès sa jeunesse, et on a vécu dans ces traditions. Un jour, il faut qu'on fasse du discernement et qu'on comprenne ce qu'il y a de légitime, ce qu'il y a de moins légitime dans ces traditions. Il ne faut pas les supprimer d'un seul coup, hein, parce que c'est très humain, ça. Et dans la liturgie, il y a toujours les traditions religieuses. Toujours. C'est pour ça que quand on modifie, il faut toujours faire grande attention. Parce qu'on risque d'enlever certaines choses qui relèvent d'un patrimoine religieux humain. Tandis que la foi, elle demande d'être toute pure. La foi, elle est purifiée de l'intérieur par l'Esprit Saint. Eh bien, au niveau des traditions religieuses chrétiennes, il est bien évident que nous savons que l'âme humaine est immédiatement créée par Dieu. Et même nous savons, selon les traditions religieuses chrétiennes, que l'âme de la femme est immédiatement créée par Dieu. Puisque certains posent des questions là-dessus, en disant, vous savez bien, selon certaines traditions philosophiques, on peut dire qu'il y avait là un petit problème. Alors, c'est pour ça que je dis, point de vue des traditions religieuses chrétiennes, l'âme humaine de l'homme et de la femme créée par Dieu. Et la foi nous le dit. Donc, non seulement les traditions religieuses, mais la foi. Et ici, je me place au plan philosophique. Au plan philosophique, comment pouvons-nous découvrir l'origine de notre âme? Et je dis bien de notre âme, celle que nous connaissons, celle que nous aimons, puisque nous avons vu au point de départ qu'il y a une connaissance affective de notre âme. Et puis, il y a une connaissance philosophique. La connaissance affective, elle est immédiate. Il y a l'intériorité, ma vie. Il y a le vécu du côté affectif et du côté intellectuel. Et ce vécu profond me fait aimer mon âme comme source de vie. Et je me pose la question, cette âme qui est source de toutes mes activités, aussi bien de mes activités végétatives, lorsque je me nourris, lorsque je dors, lorsque je respire, que de mes activités intellectuelles, quand nous faisons un effort de pensée, que de mes activités affectives, quand je fais un effort pour aimer, mais que je veux aimer. Cette âme, dont je saisis la présence au plus intime de moi-même, d'où vient-elle? Alors ici, ce serait très intéressant de voir diverses positions philosophiques. Tous ceux qui acceptent que l'âme existe, parce qu'il y a des positivistes qui disent que l'âme n'existe pas, donc il n'y a pas de problème. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a que le corps, et il n'y a pas que les positivistes, parce que anciennement, en Grèce, il y avait les stoïciens aussi, qui disaient que l'âme n'existe pas, donc il n'y a que le composé. Et alors, avec la mort, le composé disparaît, très bien. On l'enterre, on le met dans la terre, comme pour le chien. Mais ceux qui acceptent qu'il y a une âme spirituelle en nous, vous avez la position de Platon, qui est une position que certains pères de l'Église ont soutenue, se sont fait taper un peu sur les doigts. Mais ils ont soutenu ça. Je pense à Origène, si vous voulez. Que l'âme humaine a été créée par Dieu pratiquement toute éternité. Que l'âme humaine a été créée en étant les anges de position. Mais l'âme humaine a été créée avant le monde physique. Et l'union de l'âme humaine et du corps provient d'une punition. Pour Platon, c'est très net. Il dit ça très très sérieusement. Si mon âme humaine est liée à mon corps, c'est parce que j'ai péché. Vous savez ce qu'il dit, il ne faut jamais l'oublier, parce que le divin Platon, on l'aime beaucoup, mais il dit de temps en temps des choses assez grosses. Il dit que l'âme humaine, l'âme de l'homme, est unie à un corps à cause du péché. Si l'homme mène une vie impossible, ce qui peut arriver, il y a une réincarnation dans un corps de femme. Ah, je n'exagère rien, je dis exactement ce qu'elle dit, je n'oserais pas le dire, vous comprenez bien, c'est pas philosophique, c'est un mythe ça. Et si la femme se conduit mal, elle se réincarne dans un animal. Vous voyez la situation de la femme chez le divin Platon. Il est merveilleux, Platon, mais là, il y a des choses qu'il n'a pas compris. Il n'a pas vu. Et c'est vrai, pour vous faire aimer Aristote, parce que c'est quand même utile de temps en temps, il faut dire que c'est le premier qui a découvert qu'entre l'homme et la femme, il peut y avoir une véritable amitié. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle saint Thomas a quitté Platon pour aller vers Aristote. Parce qu'il n'y a pas de philosophie de la famille possible chez Platon. C'est absolument impossible. C'est l'union libre. Et vous savez bien, l'union libre pour Platon, elle est préconisée. Parce que comme ça, il y aura une unité parfaite dans la cité. Parce que tout homme pourra dire que tous les enfants de certain âge ont peut-être son enfant. Il ne sait pas. Il ne peut pas le savoir. Donc tous les enfants d'un certain âge, ce sont mes enfants. Mais un moyen très curieux d'arriver à l'unité. Ce qui est sûr, c'est que pour Platon, l'âme est créée bien avant le corps. Elle est créée toute éternité. et que l'âme que j'ai actuellement et que vous avez, cette âme-là a connu un état de contemplation. Mais il y a eu la chute, d'où la réminiscence. C'est très curieux, ce mythe très curieux de la réminiscence et ce mythe très curieux de l'homme uni au corps à cause du péché. C'est pour ça que le corps est considéré par Platon comme le tombeau de l'âme. Aristote, au contraire, lui, considère que l'âme et le corps forment une unité substantielle, un seul être. Le réaliste Aristote, j'ai jamais eu d'expérience de mon âme séparée, sauf dans des rêves. Mais ce sont des rêves. On a pu tous avoir des rêves extraordinaires, notre âme quitter notre corps et puis planer merveilleusement. Et puis quand on se réveille, elle retrouve le corps. Est-ce que jamais arrivé d'avoir cette expérience tangible de mon âme séparée par rapport à mon corps? Aristote, en raison même de l'expérience, affirme donc l'unité substantielle. Et alors là, le problème se pose. D'où vient mon âme? Aristote, c'est simple, quand il s'agit de l'anima, l'âme de l'anima, puisqu'il y a une âme, analogiquement parlant, soulignons bien, j'affirme qu'il y a une âme dans le chien, non pas parce qu'il pleure, non pas parce qu'il est fidèle, mais parce que c'est un animal sensible, un animal passionné. Et quand j'affirme que dans le chien, dans la vache, il y a une âme. Cette âme que je pose dans le chien, vous comprenez très bien, je ne la connais pas directement. C'est impossible de connaître l'âme du chien. Même par ses aboiements, j'arrive pas à connaître l'âme du chien, ni l'âme de la vache. Mais je la pose analogiquement, donc totalement différente de la mienne. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une espèce de projection psychologique que nous faisons. Elle est totalement différente. Et la seule chose commune, c'est qu'elle est source de vie. Puisque c'est ça l'âme, source de vie. Source d'opération. La génération chez les animaux transmet le corps et l'âme. Chez l'homme, Aristote souligne que l'âme vient nécessairement du dehors. Ça, il l'affirme. Et pourquoi? Parce qu'il y a dans l'âme quelque chose de spirituel. Il y a le nous, il y a l'intelligence, il y a la capacité d'aimer. Aristote se pose la question. Quels sont les liens de l'intelligence et de mon âme végétative? Ça, c'était la grande question pour lui. Il y a une unité substantielle, mais comment expliquer que le nous spirituel soit en même temps lié à cette âme qui est liée au corps? Comment expliquer ça? C'est pas commode, faut bien le reconnaître. De fait, il s'est posé la question, je crois, toute sa vie. Il y a un livre d'Aristote que nous n'avons pas. Un livre sur Dieu. Je crois que c'est dans ce livre sur Dieu qu'il aurait parlé de la création. Et par le fait même qu'il se serait posé la question, est-ce que l'âme humaine, puisqu'elle vient de l'extérieur, exige-t-elle un acte créateur de Dieu? Il n'a pas posé. Dernière position, pour voir les diverses positions chez les Grecs. Dernière position, c'est chez Plotin. Plotin, donc le néoplatonisme. Plotin, 2 siècles après Jésus-Christ. Le néoplatonisme qui vivait à Rome à ce moment-là et en Grèce. Plotin pose le problème de cette manière. Il dit, au-dessus de tout, il y a l'âme et le bien. l'hypostase, mais le nous, l'intelligence. Et de l'intelligence, unie à l'un, dans sa contemplation, va naître l'âme. L'âme du monde, puisque pour lui, il y a une âme du monde, et l'âme de chaque individu, donc de chacun d'entre nous. L'âme n'est donc pas immédiatement créée à partir de l'un et du bien. L'âme est créée par l'intermédiaire d'autres hypostases, entre autres l'intelligence. L'âme est petite fille de l'un et du bien. Elle est fille du nous, de l'intelligence. Elle vient de l'intelligence. Positions qui ont été données en philosophie grecque. Et vous voyez, c'est toujours très intéressant quand il s'agit d'un problème aussi important que celui-là, de voir que de fait, les Grecs ont cherché, et venu la foi chrétienne. Alors dans la foi chrétienne, c'est net, très vite, je ne pourrais pas vous dire la date exacte, mais je crois que très très vite, les chrétiens ont pris conscience que l'âme était créée directement par Dieu, sans préciser du reste à quel moment l'âme humaine a été créée par Dieu. Et ça s'est resté caché. Saint Thomas, à la suite des pères de l'Église, disent que l'âme humaine a été créée dans l'embryon à 6 mois. Et ceci à cause du petit Jean-Baptiste. Vous savez bien, il avait 6 mois depuis sa conception quand Marie est venue auprès de lui. Et il y a eu cette danse charismatique du petit Jean-Baptiste dans le sein maternel. Et cette danse charismatique a réveillé sa mère. Et donc, s'il y avait cette danse charismatique, il y avait donc une âme. Et c'est pour ça que les théologiens du Moyen-Âge et les pères de l'Église disent sûrement, à partir du 6e mois de la conception, il y a une âme humaine. Ils essayaient d'expliquer ça, selon leur manière. Avant, l'âme dépend des parents, mais c'est une âme végétative. C'est une âme sensible. Ce n'est pas l'âme intellectuelle. Et cependant, quand l'âme intellectuelle est créée par Dieu, cette âme est unique. Et donc, tout ce qui était avant, de l'ordre de la disposition, est assumé par cette âme spirituelle. Ça, c'est la position de saint Thomas. Donc, ce n'est pas dès le premier moment de la conception, mais c'est au bout de 6 mois. Mais comprenons bien que tout de suite, dès le point de départ, dès le moment de la conception, tout de suite, ce nouvel être est ordonné à recevoir une âme spirituelle. Et cette âme spirituelle vient de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons nous dire aujourd'hui? C'est très bien de voir la diversité de ces philosophes. Qu'est-ce que nous pouvons dire au plan proprement philosophique? C'est ça la difficulté. Et on doit, au plan philosophique, essayer d'aller le plus loin possible. Je réfléchis sur le fait que notre âme, non seulement est une âme végétative, sensible, mais c'est aussi une âme spirituelle. Et ça, je peux affirmer l'unité substantielle de mon âme, puisque quand je pense, quand j'aime et quand je mange, je sais que c'est moi. Mais je n'hésite pas à dire que c'est moi. Si on me dit, mais non, c'est pas toi quand tu manges. Non. Réfléchissons un instant. C'est bien moi. Et c'est pas toi quand tu penses, mais c'est bien moi qui pense. Et c'est bien moi qui aime. Donc il y a une unité substantielle de nos diverses opérations. Il y a donc une source de de toutes ces opérations. Et cette source, on l'appelle là. Je ne sais pas grand-chose sur cette source. Il faut bien se dire. Je dis qu'elle est substance de tout mon être. Je dis qu'elle est acte de tout ce que je suis. Elle est source. Alors, d'une certaine manière, je sais des quantités de choses. Parce que tout ce qui émerge en moi provient radicalement de mon âme. Toute ma vie biologique provient radicalement de mon âme. Et donc ma figure, mon regard, mon toucher provient radicalement de mon âme. Et d'une certaine manière, à travers le toucher, je manifeste quelque chose de moi. Vous savez bien, quand vous donnez la main à quelqu'un pour lui faire comprendre que vous l'aimez bien et que vous compatissez si ce quelqu'un a souffert, à travers votre manière de serrer la main de quelqu'un, vous lui dites votre affection. Évidemment, il y a des manières tout à fait conventionnelles de se donner la main. Alors à ce moment-là, vous très bien, ça ne dit pas grand-chose. C'est un geste conventionnel. Mais autrement, quand vous êtes très saisi par la souffrance de quelqu'un, vous essayez par tous les moyens, par un geste, de manifester que vous êtes là et que vous aimez cette personne et que vous compatissez. Et vous le faites à travers un geste. Votre âme est présente dans votre toucher. Et si vous voulez qu'elle soit très présente dans votre toucher, quand vous aimez, que vous voulez transmettre quelque chose à celui, à celle qui est proche de vous, vous savez qu'à travers la sensation du toucher, il y a quelque chose de votre affection qui passe. Comme dans le regard. Il y a une manière de regarder glaciale, la manière un professeur qui fait passer des examens. Il faut regarder son regard de temps en temps. La manière dont un professeur fait passer des examens. La manière dont un père regarde son tout petit enfant qui pour la première fois lui sourit. L'examinateur fait passer sa connaissance. Et il fait passer aussi quelquefois un iceberg. Glacia, pour voir exactement ce qu'il a en lui. Pas d'affectivité. Non, on verra. Là, ça peut être assez froid. Pour ça qu'on n'aime jamais de faire. On n'aime jamais de passer des examens. Et non plus aussi d'en faire passer. Parce que on doit un tout petit peu essayer, comme on dit aujourd'hui, être objectif. Je sais pas si c'est la manière d'être objectif, j'en sais rien, ça c'est une question. Parce que je crois que d'être objectif, c'est au contraire d'aider celui qui passe un examen de dire ce qu'il a dans le cœur et dans l'intelligence. C'est beaucoup plus vrai que de l'intimider. Parce que intimider quelqu'un, ça veut dire tout simplement qu'il est timide. Il y a des gens qui sont des imbéciles, qui sont intimidés par rien. Vous savez, il y a des bêtes à examen, ils sont extraordinaires. Ils savent qu'ils voient beaucoup moins bien que les autres, mais ils ne sont pas timides. Et les gens très sensibles, il suffit de passer un examen pour ne plus les avoir du tout. Ben, l'examinateur, s'il était très intelligent, devrait dépister ça. S'il était très intelligent, il devrait dépister tout de suite la qualité intellectuelle de quelqu'un. Et quand il est en face de la qualité intellectuelle de quelqu'un, il doit essayer de l'aider. Quand il est en face, au contraire, de quelqu'un qu'il fort en thème, et qui passe ses examens en disant moi, ouais, non, rien du tout. Là, au contraire, il devrait lui poser la bonne question. Alors, autrement dit, notre âme se transmet à travers toute notre sensibilité, ça c'est sûr. Notre âme spirituelle se transmet. Notre sensibilité n'est pas celle de l'animal. Notre sensibilité peut aller bien plus loin que celle de l'animal, parce que notre âme est présente à travers notre sensibilité. Et donc il y a quelque chose dans notre activité intellectuelle et affective qui est au-delà du sensible, tout en animant le sensible, qui se sert du sensible pour se communiquer. C'est assez beau cela, et c'est assez grand. Il y a quelque chose dans notre âme qui est au-delà l'Église, l'universel comme tel, est au-delà de la matière. C'est le signe que mon intelligence n'est pas engluée dans la matière. C'est le signe que mon intelligence est au-delà d'un organe biologique, physiologique. Qu'il y a quelque chose dans mon activité de connaissance que j'appelle l'activité spirituelle qui est au-delà. C'est ce que je disais une fois à un physicien, c'était à Lausanne. Il me disait, mais moi, je ne constate que le sensible. Je ne constate que le physique. Je mesure toujours du physique. Je n'ai jamais rencontré l'esprit. Alors je dis, est-ce que vous avez réfléchi une fois à ce que c'est que votre science ? Il dit, ah non. Ben, réfléchissez à ce que c'est que votre science. Est-ce que vous croyez que votre science est du sensible ? Quand vous élaborez votre science, qu'est-ce que c'est que votre science ? C'est du sensible. Ça se transmet par la parole. Mais la signification de vos mots quand vous enseignez. Cette signification, est-ce que c'est du sensible ? Qu'est-ce que c'est que la signification d'un terme universel ? Puis j'essayais de faire comprendre que même un physicien qui est tout le temps en contact avec le monde physique atteint quelque chose dans la signification de sa science qui est universelle. Il n'y a pas de science sans qu'il y ait une signification universelle. Le vieil Aristote avait déjà dit ça, et ça demain l'a repris. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait science, qu'il y ait une connaissance, qu'il y ait une signification universelle. S'il y a une signification universelle, ça prouve qu'il y a une source capable de produire cette signification universelle. Parce qu'autour de moi, il y a que des réalités sensibles. Il y a que des réalités individuelles. C'est donc l'intelligence, mon intelligence, qui est capable de penser et de saisir quelque chose qui a une signification universelle. Et je l'exprime à travers tel ou tel terme. Je l'exprime à travers tel ou tel proposition. Il y a donc le signe très net que personne ne peut nier. Ce serait suffisant pour supprimer toute l'idéologie positiviste. C'est pour ça que les positivistes sont toujours inconscients. Parce qu'ils font de la science et ne réfléchissent même pas sur le contenu universel de leur science. Alors qu'ils devraient réfléchir sur le contenu universel de leur science. Et leur science, comme telle, n'est pas mesurable. Elle est en eux. Alors ils diront, ah, mais il suffit de supprimer telle ou telle petite connexion biologique pour empêcher que je pense. Oh, je suis tout à fait d'accord. C'est bien évident. Mais ça ne prouve rien du tout. Ça prouve que lorsque vous pensez, vous vous servez toujours d'une image. Et donc du sensible. Mais le contenu de votre science, le contenu des mathématiques, personne ne peut nier que les mathématiques existent. Le contenu des mathématiques, la signification universelle. Si le contenu des mathématiques a une signification universelle, il y a donc une source de ces mathématiques. Et cette source, elle est capable de s'élever au-delà du monde physique, monde biologique, qui lui est toujours singulier. Ceci pose le problème, voyez, qu'il y a en moi quelque chose qui n'est pas lié à la matière. J'y reviendrai la fois prochaine à propos du problème de l'immortalité. Mais j'aimais souligner ce petit signe, parce que ça c'est très important. C'est un signe, pas plus. Un signe qu'il y a en moi quelque chose qui dépasse une par mode de mensuration, puisque je saisis certains termes qui ont une signification universelle, puisque je suis capable de réaliser au-dedans de moi-même une certaine science qui implique une certaine universalité, puisque j'accepte que les mathématiques existent et que les mathématiques ne sont pas tombées du ciel d'un seul coup. Les mathématiques, comme dit Aristote dans une phrase que j'aime beaucoup, les mathématiques sont nées en Égypte, dans la caste sacerdotale qui avait des loisirs. C'est très très joli, parce que ça montre que la caste sacerdotale, ayant des loisirs, réfléchissait. Et donc, contemplait. Et la première forme s'est exprimée dans les mathématiques. C'est vrai, il faut du temps pour réfléchir. Il faut du loisir pour réfléchir. Toute connaissance spéculative implique du loisir. Et après tout, la caste sacerdotale, c'est peut-être fait pour ça. C'est pour penser pour ceux qui ne pensent pas. N'est-ce pas ? Alors d'essayer de penser. Et d'essayer de penser le plus loin possible dans l'ordre des sciences, dans l'ordre mathématique, dans l'ordre philosophique, dans l'ordre théologique. Alors, comment puis-je aller plus loin? Je crois qu'il faut se poser la question. Il y a donc en moi quelque chose qui est au-delà du monde sensible. Ce que Plotin disait, lui, avec beaucoup de force, n'oublie pas de découvrir en toi le quelque chose de divin. Et le quelque chose de divin, pour Plotin, c'était de découvrir quelque chose qui est au-delà du monde corruptible. Ce quelque chose de divin qui est en moi, il est lié à toute ma vie. Quand je pense, quand je réfléchis au plan mathématique, ou quand je mange, c'est toujours moi, donc il y a une unité substantielle. Il y a donc un lien difficile à préciser. Il y a un lien qu'il faut essayer de comprendre entre ce quelque chose de spirituel, d'immatériel, qui est en moi, et puis mon âme substantielle. Mon âme qui est liée à mon corps. Il y a un lien. C'est la même âme. Je sais très bien, alors là, je peux l'affirmer, parce que j'en ai l'expérience, je sais très bien que mon âme végétative s'est éveillée la première. Elle a un droit d'aînesse au point de vue de l'ordre génétique. Le tout petit enfant dans le sein maternel, et puis quand il est né, n'a pas beaucoup d'activité spirituelle. Je crois qu'un des premiers moments de l'activité spirituelle, c'est le sourire. L'animal ne sourit pas. Et l'enfant mange, boit, dort, puis gesticule. Ça, c'est sa vie végétative. La vie végétative domine de façon prodigieuse. Puis progressivement, en fonction de l'intelligence de sa mère, c'est pour ça que quand on a une mère très intelligente, c'est merveilleux. En fonction de l'intelligence de sa mère, cet enfant s'est éveillé. S'est éveillé. Puis après, c'était l'intelligence de son père. Les deux vont coexister, mais l'intelligence de la mère est au point de départ, plus que l'intelligence du père. On n'a pas assez soigné ça. C'est surtout au point de départ qu'on a besoin de quelqu'un qui nous éveille. Après, l'intelligence, on le sait très bien, elle est source d'autonomie. On n'aime pas tellement de recevoir des commandements de quelqu'un d'autre, ou simplement quand il s'agit s'agit d'un examen, d'avoir une petite répétition de son père. Alors là, ça va très très bien. Pour être sûr de passer l'examen. Quand on est encore suffisamment jeune, après, on dépasse. Mais c'est très vrai que l'intelligence s'éveille progressivement et lentement. Et que notre volonté s'éveille progressivement et lentement. Et nous arrivons à un moment où nous avons été capables de poser un acte libre. Rappelez-vous, le premier moment où vous avez posé un acte libre. Je crois que souvent, la conscience qu'on en a, c'est lorsqu'on a désobéi. C'est dans la négation, ordinairement, qu'on a le plus grand souvenir qu'à ce moment-là, on a dit non. Et on l'a dit librement. Et c'est arrivé assez vite. On a tapé du pied. On a dit non. Et notre mère a voulu nous emmener dire quoi. Alors on va te mettre au coin. On va te laisser ça dans ta chambre seule. Ça m'est égal. C'est un acte libre qui se pose très vite, mais très vite. La négation plus consciente pour nous de quelque chose qui vient de nous. C'est du reste très étonnant. Ça, c'est très intéressant. Et donc, l'intelligence s'éveille après, mais elle s'éveille vite. Et je crois qu'elle s'éveille très vite. Alors, à ce moment-là, on voit bien cette unité qui existe en nous. Et donc on doit dire que notre âme spirituelle, parce qu'elle est spirituelle, elle ne peut pas venir de nos parents. Elle doit venir d'un autre. Et cet autre ne peut être que l'être premier. Ne peut être que le Créateur. Alors ceci, il faut essayer de le montrer. Cet autre ne peut être que le Créateur. Vous voyez bien que ceci se pose avec toute son acuité après avoir découvert l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent le Créateur. Après avoir découvert l'existence d'un être premier, acte pur, que les traditions religieuses appellent Dieu, et que cet être premier, Dieu, selon les traditions religieuses, c'est le Créateur, je peux à ce moment-là dire, mon âme spirituelle, parce qu'elle est capable de remonter jusqu'à Dieu, a donc une parenté fondamentale à l'égard de Dieu.
Encore des traditions religieuses. La foi
pour ça que c'est si important d'essayer petit à petit d'arriver par soi-même à remonter jusqu'à la source. Et la source première pour moi, c'est l'existence d'un être premier que j'appelle Dieu. Et tant que je n'ai pas découvert cet être premier, mon intelligence n'est pas entièrement libérée. Elle n'a pas son autonomie. Mais dès que j'ai découvert l'existence de l'être premier, puisque je le découvre, il y a donc quelque chose en moi qui me connaturalise avec cet être premier. Et c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui me connaturalise avec cet être premier que je peux comprendre que je viens directement de lui, sans passer par l'intermédiaire. C'est là où nous découvrons quelque chose d'extrêmement important pour nous. Que notre âme spirituelle et notre âme tout court, puisqu'il y a une unité substantielle en nous, nécessairement vient directement du Créateur, de l'être premier. Grande montée verticale. Ah, c'est une montée verticale. C'est plus du tout horizontal. Découvrir qu'il y a en moi quelque chose de divin qui ne peut provenir que de l'être premier divin. Qu'il y a en moi une étincelle, je ne dis pas de génie, mais plus que de génie, une étincelle divine. Et chacun d'entre nous, nous l'avons. C'est ce qui nous console de ne pas être un génie. Parce qu'on a quelque chose de plus. On peut se consoler de ne pas être un génie parce qu'on a quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est découvrir en nous qu'il y a quelque chose de divin, quelque chose de spirituel qui m'apparente directement à Dieu. Ça, c'est très très beau. Nous y reviendrons la fois prochaine d'une autre manière. Parce que je crois que ça vaut la peine qu'il y ait De Gaulle là-dessus. Vous voyez, parce que ces De Gaulle, je vous l'ai dit tout à l'heure, se tiennent. Alors, l'origine, j'aimerais que vous posiez toutes vos objections. Il y a un gros tas d'objections la fois prochaine sur les âmes. Ça vaut la peine. Réfléchissez pas nécessairement les vôtres, mais celles que vous avez entendues. Et vous n'avez pas su répondre. Ça arrive, ça. On a été devant un positiviste, mécréant, ça existe, qui affirme avec force que Dieu n'existe pas, que l'âme humaine, c'est comme l'âme des animaux, qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'esprit, ça n'existe plus. On a cru ça, c'était bon pour le Moyen-Âge, et ainsi de suite, vous voyez. Alors, il faut découvrir cette petite étincelle qui est en nous, cette étincelle divine qui nous apparente à Dieu. Alors, l'autre question, mais quand cette âme a-t-elle été créée par Dieu en nous? Question extrêmement intéressante et brûlante aujourd'hui. Vous savez bien. Problème philosophique des manipulations génétiques. C'est tout le problème philosophique de l'avortement. C'est quand même très important de voir jusqu'où le philosophe peut aller dans ses soubassements humains. Dans cette vie souterraine que nous avons tous eue. Normalement, on ne s'en rappelle pas beaucoup. Quelques-uns, paraît-il, s'en rappellent. Pas moi. Parce que les soubassements ont dû être extrêmement solides, c'est pour ça que je ne m'en rappelle plus. Parce que quand les soubassements ont connu des tremblements négatifs, alors on peut peut-être se rappeler de certaines négations, c'est possible, hein, je n'en Je connais pas l'expérience. Lucidement, j'ai pas l'expérience. On peut se rappeler certaines expériences de sa jeunesse. La première fois, on a dit non. Ça, on peut se rappeler ça. Mais ça se ramène assez loin. Là, c'était le gosse, mais il avait 4 ans, je sais bien. Je crois qu'il se rappellera ça toute sa vie. Quand il était sur un divan. Je sais très bien qu'on va objecter, mais biologiquement, ce n'est qu'au bout de quelques moments après la conception qu'il y a division quand il y a des jumeaux. Donc, il ne peut pas y avoir la création de l'âme au premier moment de la conception. Mais voyez bien que cet argument peut être renversé. Parce que si c'est Dieu qui a créé l'âme, il le sait bien. C'est quand même lui qui est l'auteur de la vie. Mais qu'est-ce qu'il vous dit que, puisque vous ne pouvez pas constater l'âme, vous ne la touchez pas au bout de vos manipulations biologiques, alors il peut très bien y avoir deux âmes qui se divisent après. Aucune impossibilité métaphysique à ça. Donc je renverse l'argument tout simplement en disant mais oui, de fait, si on était suffisamment intelligent et qu'on allait jusqu'au bout de l'observation, on arriverait à découvrir dès le premier moment que ce premier moment n'est pas tout à fait comme les autres. Et comme notre connaissance dans ce domaine-là reste quand même limitée, on n'arrive pas encore à distinguer les autres. Et qu'on le voit après, la division. Donc c'est pas une objection, ça. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important en philosophie à essayer de saisir. Alors, je laisse, c'est pour ça que j'aime beaucoup, que vous puissiez réfléchir pendant 8 jours, ou pendant plus. La fois prochaine, c'est le 6, 15 jours. 15 jours de réflexion philosophique sur un problème fondamental. Alors, vous mettrez vos objections et vos questions dessus, et puis on continuera cette réflexion pour comprendre la mort biologique et l'immortalité de l'âme. Vous comprenez bien? Que devient l'âme après la mort? Que devient le corps après la mort? Des problèmes, ce sera une méditation sur la bonne mort. Mais je ne la ferai pas au plan proprement religieux, j'essaierai de la faire au plan philosophique. C'est plus important de réfléchir sur ce que c'est que la mort au niveau philosophique. C'est quelque chose de très important. Alors, avant de terminer, on va poser ces deux questions. Peut-on dire que le phénomène psychologique du subconscient est l'une des conséquences du péché originel, en ce sens qu'il divise l'homme né à l'image de Dieu dans un premier temps et donc unifié dans la charité de l'amour? C'est une question théologique, vous comprenez bien, puisque je ne peux pas parler du péché originel sans la foi. Je distingue tout de suite, parce que c'est important de distinguer ce que je peux résoudre par mon intelligence et ce que je résous en fonction de ma foi. Il faut toujours être très attentif à ça, surtout dans le monde d'aujourd'hui où on vit constamment avec des personnes qui n'ont plus la foi ou qui n'ont pas la foi, mais qui peuvent être intelligentes. Hein? Et on doit pouvoir leur répondre à leur intelligence. Bien, au plan proprement philosophique, je ne peux rien dire. C'est bien évident. Alors, et je dirais, même au plan philosophique, il faudrait peut-être distinguer le subconscient. Parce que le subconscient existe du fait même qu'il y a une potentialité en moi. Donc, au plan philosophique, je dirais que le subconscient et l'inconscient existent du fait même que mon intelligence implique une certaine croissance, un certain devenir, ainsi que ma volonté. Que ma vie biologique se développe dans une certaine croissance. Dès qu'il y a croissance, dès qu'il y a devenir, il peut y avoir des ratés. Et donc il peut y avoir des obstacles qui provoquent le subconscient et l'inconscient. Mais au plan théologique, je puis ajouter que les conséquences du péché originel ont intensifié la bagarre. Intérieur, ont intensifié l'inclination dominante du sensible sur le spirituel, des passions sur l'appétit spirituel, ça c'est bien évident. De sorte que je peux dire qu'en raison du péché originel, il y a un poids d'inconscient qui augmente. Mais je ne dirais pas que l'origine de l'inconscient provient du péché originel. Qu'il s'agisse de l'inconscient, du subconscient, qu'il s'agisse de tout simplement de ce qu'on pourrait appeler dans la terminologie de Freud, voyez, le complexe. Qu'il y ait des complexes dans l'homme, c'est fatal, étant donné la complexité de son être. Complexe qui implique justement ça, la complexité de son être. Et qui implique la croissance de l'être spirituel en lui. L'être spirituel naît après notre vie végétative, notre vie sensible, notre vie passionnelle. Et du fait même que cette croissance se fait progressivement, il y a donc toujours possibilité de certains complexes. Mais ces complexes augmentent en fonction du péché originel, c'est bien évident. Il n'y en aurait pas eu beaucoup, il y en aurait eu quand même quelques-uns. Et par la grâce de Dieu, serait surmonté. Je crois qu'on peut dire qu'en justice originelle, il n'y aurait pas eu de psychiatre et de psychanalyste. Je crois qu'on peut le dire. Et que les psychiatres et les psychanalystes sont là pour rappeler à l'homme qu'il y a un poids très lourd à porter, héréditaire, d'une hérédité naturelle, et qui fait qu'on n'est pas toujours coupable. Parce que ce poids d'hérédité, c'est très vrai, et ça c'est très important. Vous voyez, ceux qui veulent supprimer le péché originel, ils n'aperçoivent pas qu'en faisant ça, ils augmentent la culpabilité énorme de l'homme, après tout. C'est une très grande miséricorde de Dieu, ça, d'avoir diminué ce poids de culpabilité. Alors, autre question, vous avez semblé opposer la dernière fois volonté au sens d'appétit spirituel, d'appétit ou spiritualisme et connaissance, en disant que la connaissance peut détruire l'amour. Cela laisserait supposer que l'amour ne supporte pas la lumière. J'ai certainement mal compris. Très bien. Alors j'explique. Il est bien évident que tout amour spirituel et tout amour passionnel présuppose une connaissance. Pour aimer, il faut connaître. Mais cette connaissance de l'amour spirituel provient de l'intelligence et non pas de la raison. Et c'est ça qu'il faut bien distinguer. Saint Thomas ne cesse de distinguer intellectus et ratio. Et ça, je crois que c'est capital de bien les distinguer. C'est la même faculté, c'est la même puissance. Mais il y a deux orientations. Celui qui raisonne de trop risque de freiner son amour. Et les femmes savent très bien en face de leur mari. Si elles sont intelligentes. Dites, tu raisonnes beaucoup trop. Ta logique ne naîtra pas ton amour à fleurir. C'est bien évident. Mais cela ne veut pas dire qu'on aime que quand on est bête. Si on est intelligent, on est encore beaucoup plus capable d'aimer. Mais l'intelligence, pas la raison. C'est l'intelligence qui vient au service de l'amour spirituel. Et ce que je soulignais, il me semble bien, c'était justement cette rivalité qui peut exister entre un développement de la raison raisonnante, de la raison logique et de l'amour. L'amour implique une certaine spontanéité que la raison raisonnante n'admet pas, que la logique n'admet pas, il n'y a pas de spontanéité en logique. La logique implique toujours une attitude réflexive. Et alors cette attitude réflexive du raisonnement, quand elle est trop développée, et ça arrive, quand elle est trop développée, va freiner énormément les élans d'amour. On aura honte d'aimer. Parce que quand on aime vraiment, spirituellement, il faut dépasser ce point de vue du raisonnement. Et c'est cette phrase si forte que je vous citais la dernière fois de Saint Bernard. L'amour n'a pas d'autre raison, n'a pas d'autre mesure que l'amour. C'est pas la raison qui mesure l'amour. Ce n'est même pas l'intelligence qui mesure l'amour. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime au-delà de ma connaissance intellectuelle. Je l'aime pour lui et je découvre en lui quelque chose qui me permet justement d'aller plus loin que mon intelligence et ma raison. C'est en ce sens-là, vous voyez, que l'amour implique toujours un peu un mystère. Pour le philosophe, toujours un peu dans notre appétit spirituel, dans notre volonté, il y a toujours quelque chose que nous ne pourrons jamais totalement analyser. Et ça, c'est pas toujours commode pour un homme intelligent, très logique, très matheux, très scientifique. Il aura beaucoup de peine, quelquefois, d'accepter ce dépassement. C'est très facile pour l'enfant.
C'est très facile.
Mais c'est beaucoup plus difficile pour l'homme. Et un monde où la culture est une culture scientifique, rationnelle, logique, très souvent, arrête les épanouissements de l'amour. On doit en tenir compte. On doit le comprendre. Mais il ne faut surtout pas mettre de rivalité entre l'appétit spirituel, notre faculté, notre puissance d'aimer, notre volonté et notre intelligence. Plus on aime, plus on désire connaître celui qu'on aime. Ça, c'est bien évident. Mais le connaître en profondeur, pas le connaître d'une manière trop rationnelle, trop scientifique. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'éprouvez pas tellement le besoin de faire analyser son écriture. Tandis que quand l'amour commence à diminuer, alors à ce moment-là, vous dites, après tout, je vais peut-être me renseigner un peu pour savoir ce qu'il en est. Alors je vais analyser son écriture. C'est le baromètre, ça. Tandis que quand on aime beaucoup quelqu'un, on impose les fiancés qui analyseraient leur écriture. Parce qu'à ce moment-là, on met le raisonnement et l'analyse avant l'amour. On a peur d'aimer. Je comprends qu'on ait peur d'aimer. C'est évident qu'on a peur d'aimer. Puisque dès qu'on aime, on est emporté par celui qu'on aime. On est emporté, on est à sa suite. On est relatif à lui. Être relatif à quelqu'un qu'on aime, c'est normal quand on aime. C'est pas gênant. C'est tout simplement aimer. Et quand vous vous mettez à réfléchir, vous dites, je suis plus maître de la situation, j'aime. Je ne suis plus maître de la situation. Et c'est vrai, quand vous aimez, vous êtes deux maîtres de la situation. Vous n'êtes plus seul. C'est très gênant. Et quelquefois, vous avez l'impression que c'est celui que vous aimez ou celle que vous aimez qui, de fait, aura la plus grande influence. Vous êtes deux, ne dites pas que c'est l'autre, vous êtes deux. Alors à ce moment-là, c'est tolérable. C'est ensemble qu'on est maître de la situation, parce qu'on s'aime.